du Glose 2020, journée mariale, conférence de Pierre Duberger, Va, le Seigneur est avec toi, partie 1.
Nous avons voulu une journée de récollection, parce qu'après les temps que nous avons vécu de confinement, de déconfinement, de peur, de tout ce que vous voulez, il nous a semblé que pour la vie de notre diocèse, il fallait que nous reprenions les choses à l'essentiel, c'est-à-dire le Christ. Et le thème donné pour cette semaine mariale, « Va, le Seigneur est avec toi », est un très beau thème qui va nous, je l'espère, nous réengager, ne pas avoir peur. Et c'est ce thème que j'ai aussi choisi pour ma lettre de rentrée, dont je vous dirai un petit mot à midi et ce soir avec les équipes d'animation pastorale paroissiale. Pour nous aider à vivre cette récollection, nous avons demandé au père Pierre Duberger, qui a tout de suite accepté, malgré les conditions de confinement, de déconfinement et peut-être de reconfinement, notamment en Italie.
J'espère pas.
Et donc, je le remercie. D'abord, ça lui donne l'occasion de venir dans le diocèse, c'est pour nous toujours une grande joie, puisqu'il est prêtre de notre diocèse. Vous savez qu'il est membre de l'équipe du séminaire français de Rome, et puis il fait aussi autre chose avec la commission publique. Il a beaucoup de travail, et néanmoins, il a accepté de nous aider en faisant un topo ce matin, puis nous aurons un petit temps libre avant l'Angélus à midi à la basilique. Nous aurons un bon repas. Nous fêterons en particulier, nous ferons mémoire surtout des prêtres et diacres jubilaires en cette année 2020. Et puis peut-être que nous accueillerons ceux qui sont là pour la première fois, aussi bien des prêtres que des religieuses. Et puis il y en a qui sont là aussi pour la dernière fois. Et nous aurons l'occasion de rendre grâce avec elles, notamment. Et puis cet après-midi, il refera un autre topo. Et à 4h, nous aurons la messe à la basilique. Après quoi, ceux qui voudront et qui auront du temps, vous pourrez aller voir l'exposition 400 ans, 40 objets, ainsi qu'on a fait une petite vidéo. Et puis, si vous voulez aussi, aller regarder le couple des Blandins qui donc met en œuvre l'habitat partagé à la Maison Saint-Jean. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui êtes curés, et ceux d'entre vous qui êtes membres des équipes d'animation pastorale paroissiale, eh bien, nous aurons notre soirée à partir de 18h, mais ça, c'est une autre histoire.
Voilà, merci, Monseigneur. Voilà, je suis toujours très, très heureux de rentrer.
Peut-être aussi impressionné, je dois dire, de venir avec vous ce matin et toute cette journée pour... Voilà, cette journée spirituelle. C'est vrai que lorsque Denis m'a appelé, il m'avait d'abord appelé, c'était pour un autre thème, et puis il m'a rappelé, il me dit « Non, on a plutôt pensé, comme Monseigneur vient de nous l'expliquer, on a pensé une autre journée, plutôt de nature plus spirituelle. » Et donc on a réfléchi ensemble, je lui ai dit « Mais je pourrais parler de Paul. » Mais il m'a dit « Non, Paul, tu en as déjà pas mal parlé dans le diocèse. » Il vaudrait donc mieux choisir quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit, alors on va prendre Pierre. Voilà, on va prendre Pierre. Avec ce matin, un épisode qu'on va quand même réentendre, pour ceux qui, je pense qu'on se souvient tous de ce passage, mais on va le réentendre dans un petit moment, avec pour ce matin la fin de l'évangile de Jean. Voilà. Et puis cet après-midi, j'évoquerai plutôt Luc et surtout les actes des apôtres. Comment la figure de Pierre peut nous aider aussi à nourrir notre propre vie spirituelle, peut nous aider aussi à faire la vérité, voilà, sur ce que nous vivons, et peut nous aider aussi par rapport aux missions qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors je vous propose peut-être que l'on entende, voyons, j'ai demandé à quelqu'un de, où est-il, voilà. On va réentendre ce passage, nous le connaissons tous, mais si vous n'avez pas la Bible avec vous, c'est peut-être bien qu'on puisse le réécouter.
Après cela, Jésus se manifesta au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin. Jésus se tint là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Hé, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent, et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question, « Qui es-tu ? » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paix, mes agneaux !» Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, « Fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui nouera ta ceinture, et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Voilà, nous connaissons bien cet épisode Évidemment, ce que l'on peut d'abord noter, c'est la dimension ecclésiale. Voilà, quand dans la Bible, on évoque les évangiles, le bateau, la pêche, on a là, bien sûr, des images qui évoquent l'Église. Quand on évoque les pains et le poisson, on évoque l'Eucharistie. Et dans ce contexte-là, donc immédiatement après la résurrection, alors que les apôtres, dans tous les cas ceux qui sont nommés ici, semblent être retournés en Galilée et avoir repris leur métier, le métier qu'ils avaient auparavant, on voit aussi la manière dont le ressuscité se donne à voir, dont il se donne à voir, je dirais, là où il veut, quand il veut, mais toujours à l'avantage de ses disciples. Toujours à l'avantage de ses disciples. Alors la difficulté qu'ont les siens de le reconnaître montre bien sûr qu'il est à la fois révélé et caché. Et seul ici, le regard de la foi, comme on le voit avec le disciple bien-aimé, seul le regard de la foi permet de discerner sa présence. Et déjà, on entrevoit que pour nous, le fait que confronté à une pêche infructueuse, ça peut nous arriver parfois, j'en reparlerai cet après-midi, les disciples d'hier et d'aujourd'hui sont toujours conviés à s'en remettre à la parole du Seigneur, à la puissance du ressuscité, qui, lui seul, peut donner en abondance ce dont nous avons besoin. Dans ce contexte, bien sûr, il y a la figure de Pierre. Vous aurez sans doute noté que le ressuscité appelle les disciples, après dire, il les appelle enfants. Voilà, et vous savez que le mot d'enfant, on le retrouvera dans la première lettre de Jean, ce qui est une manière d'ailleurs de désigner les membres de la communauté chrétienne, mes enfants. Et le ressuscité donne cet ordre aux disciples, apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. Mais est-ce que vous avez noté, c'est au verset 10, est-ce que vous avez noté que ce ne sont pas les disciples qui vont aller chercher les poissons dans cet épisode? C'est Pierre. C'est Pierre qui va exécuter l'ordre. C'est lui qui va aller chercher, voilà, les poissons qui serviront ensuite, pour certains d'entre eux, eh bien, au repas. En tous les cas, on voit déjà ici pointer le rôle ecclésial, je dirais la prééminence pastorale de Pierre. Jean tient à la signaler avant d'évoquer le reste. Il tient à signaler comment c'est Pierre, voilà, qui va aller chercher le filet, qui va le traîner. Et filet rempli de 153 poissons, filet qui ne se déchirera pas. Alors vous savez, les pères de l'Église, et on évoquera toujours à travers ce nombre de 153, qui reste une énigme, mais sans doute la surabondance de la pêche. Et en même temps, dans le fait que, alors surabondance et peut-être même universalité, il y a là de tous les poissons. Vous savez qu'habituellement, les pêcheurs de Galilée, quand ils allaient pêcher, eh bien, une fois qu'ils tiraient les filets, on enlevait les poissons impurs et on ne gardait que les poissons purs. Ici, il n'en est pas question. Mais ce dont il est question, c'est que s'il y a universalité, il y a l'unité de l'Église, qui manifestement apparaît à travers le fait que le filet ne se déchire pas, malgré le nombre de poissons. La dimension eucharistique, bien sûr, elle apparaît ensuite dans le repas. Et c'est là que, à l'issue du repas, Jésus se tourne vers Pierre. Et c'est cette question que l'on va essayer de réentendre ce matin. Une triple question suivie d'une triple réponse qui fait écho, vraisemblablement ou bien évidemment, à son triple reniement. Mais vous aurez peut-être noté que la manière dont Jésus, dont le ressuscité, appelle Pierre. Il ne dit pas « Pierre ». Il dit « Tu es Simon ». Voilà. Simon, fils de Jean. Simon, fils de Jean. M'aimes-tu plus que ceci ? Cette désignation est importante, car la première fois, au tout début de l'Évangile, la première fois que Jésus a vu Pierre, qui lui avait été, d'ailleurs c'est André qui amène dans l'Évangile de Jean, c'est André qui amène Simon à Jésus. Et que lui dit à ce moment-là Jésus ? C'est au chapitre 1, verset 42, « Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas. » Et ici, pour la première fois dans l'Évangile, et ce sont les deux seules fois, qu'est-ce qu'on voit ? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? D'une certaine manière, je me dis que c'est le nom de l'appel. C'est le nom du premier appel. Et c'est pas neutre. Parce que le premier appel, celui que l'on a ressenti, il est fondateur. Il est fondateur. Mais il est fondateur en ce sens que lorsque le Seigneur appelle, c'est pour toujours. C'est pour assurer ce qu'il appelle de sa fidélité. C'est pour les assurer de sa présence. Et c'est sans doute ce nom qui nous est le plus intime. C'est là que Jésus rejoint le ressuscité, rejoint Pierre. Certains auteurs disent que c'est le signe, le fait que Jésus, ici, appelle Pierre par ce nom, Simon, fils de Jean. Certains auteurs évoquent le fait que c'est comme un nouveau départ, que le ressuscité, vainqueur du mal et du péché, offre à Pierre. À Pierre qui a fait l'expérience de la fragilité, qui a fait l'expérience de sa lâcheté. Plus qu'un nouveau départ, je pense que Pierre, comme cela nous arrive, est confirmé. Il est confirmé dans la mission dans laquelle il a été appelé. Parce que la mission que nous recevons, l'appel que nous recevons, il ne dépend pas de nos mérites. Il ne dépend pas de nos qualités. Je crois que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, j'aime bien cette phrase, elle dit « Le Seigneur ne nous appelle pas parce que nous en sommes dignes. Il nous appelle parce que ça lui plaît. » Et je trouve ça très beau. Pierre, il a été appelé. Arrivera ce qui arrivera. Il a été appelé. Et il est confirmé ici dans la mission. Le Seigneur, lui, n'a pas changé. Pierre a sans doute fait l'expérience de sa fragilité, de sa lâcheté. Mais le Seigneur, lui, n'a pas changé. Par contre, celui qui l'interroge à ce moment-là, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Celui qui l'interroge, c'est le ressuscité. Autrement dit, c'est celui qui a vaincu le mal. Et donc, c'est comme une invitation pour Simon à accueillir le salut que lui offre Jésus. Puisque c'est le ressuscité, il lui faut accueillir le salut que lui offre le ressuscité, et c'est ce salut qui rend possible la relation d'amour qui l'unit à son Seigneur. À cela, j'ajouterai que, bien sûr, Pierre, Simon, fils de Jean, alors ça, c'est peut-être une réflexion. Je me dis souvent, mais le Seigneur, quand il nous regarde comme sauveur. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés du mal. Il nous a sauvés du péché. Ce péché que nous portons en nous, ce péché qui nous taraude, il nous en a sauvés. Et donc, il ne va pas nous interroger sur notre péché puisqu'il nous a sauvés de ce péché. Il va nous interroger sur ce qu'il y a peut-être de meilleur en nous pour qu'accueillant son amour, nous puissions reconnaître notre péché. C'est parce que nous accueillons son amour, qui est un amour sauveur, que nous pouvons reconnaître notre péché. Celui qui s'adresse à Pierre, c'est celui qui l'a sauvé. C'est celui qui est plus fort que le mal, plus fort que la lâcheté qui a été la sienne. Alors évidemment, il interroge sur son lien. M'aimes-tu ? M'aimes-tu plus que ceci ? Il faut savoir que dans l'évangile de Jean, ce verbe « aimer », il a une importance particulière. Nous, on est souvent beaucoup dans le sentiment, et c'est bien, dans l'affection, c'est bien. Mais quand si vous lisez l'évangile de Jean, si vous regardez, vous savez cela, lorsque Jésus interroge Pierre sur son amour, il l'interroge sur sa foi, sur sa foi. Je vais vous lire un passage vous connaissez peut-être certains d'entre vous ce livre de Donatien Mola, qui est un livre ancien, Saint Jean, maître spirituel. C'est un tout petit livre, il est sûrement à la bibliothèque diocésaine, il est très beau, et donc il évoque le verbe aimer. Et voilà ce qu'il dit. Voilà. Aimer Jésus, c'est le reconnaître dans son identité profonde. Lui, le Verbe fait chair, donc c'est un acte de foi. C'est l'accepter dans la réalité déconcertante de sa venue, de son heure. C'est le reconnaître pour maître et seigneur. Et là, vous retrouvez maître et seigneur, un peu le lavement des pieds. Tel que le Père et lui ont voulu qu'il soit, et cet auteur ajoute, c'est s'attacher à lui dans l'humiliation de son heure. Derrière « m'aimes-tu », il y a bien « crois-tu que je suis le Verbe fait chair ? Es-tu prêt, voilà, à me suivre dans cette heure, vers cette heure qui est la mienne, dans ce chemin d'humiliation, et surtout, es-tu prêt à m'aimer à travers tes frères ? Concernant la réponse de Pierre, ce qui me bouleverse dans ce passage, je dois le dire, c'est que Pierre ne répond pas seulement « Mais oui, je t'aime ». Vous avez vu quelle est la réponse de Pierre. La réponse de Pierre, c'est « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Et puis Pierre ajoute après, c'est la fin, « Tu sais tout. » C'est pas « je t'aime », c'est « tu sais que je t'aime. » Tu sais tout. C'est donc d'abord un acte de foi que pose Pierre. Et c'est à ça que nous sommes invités, y compris lorsque nous nous trouvons dans les situations les plus périlleuses, les plus fragiles, lorsque nous sommes vraiment confrontés avec ce qu'il y a parfois de plus sombre en nous. C'est un acte de foi dans le ressuscité. qui connaît le cœur de Pierre, qui sait que le cœur de Pierre est plus grand que son péché, et qu'il l'aime. Tu sais. En même temps que la réponse de Pierre est un acte de foi, peut-être d'ailleurs parce qu'elle est un acte de foi, elle est un acte d'humilité et de vérité dans la foi. Puisque Pierre, qui a fait l'expérience, bien sûr, du reniement, sait désormais qu'il lui faut s'en remettre totalement à Jésus Sauveur. Il le sait, plus qu'à lui-même. Et donc, il lui faut mettre sa foi en lui et en son amour qui le précède toujours. Dans un de ses ouvrages, je suis désolé, je vais citer un petit ouvrage de Hans-Urs von Balthasar. C'est un petit livre très beau. L'amour seul est digne de foi. L'amour seul est digne de foi. Von Balthasar écrit ceci. La foi est essentiellement la réponse à l'amour qui s'est livré pour moi. La foi est essentiellement la réponse à l'amour qui s'est livré pour moi. Celui qui interroge Pierre le ressuscité, il s'est livré pour lui. Et von Balthasar ajoute, réponse qui vient toujours trop tard. Réponse qui vient toujours trop tard, parce que l'acte de Dieu dans le Christ, l'acte de porter et d'enlever mes péchés, est arrivé d'abord. C'est-à-dire avant toute réponse possible, dans une pure gratuité. La foi est essentiellement la réponse à l'amour qui s'est livré pour moi. Réponse qui vient toujours trop tard, parce que l'acte de Dieu dans le Christ, l'acte de porter et d'enlever mes péchés, est arrivé d'abord, c'est-à-dire avant toute réponse. Nous ne faisons que répondre à l'amour qui nous précède toujours et qui nous sauve de manière gratuite. Toujours dans ce petit passage, cet auteur ajoute « Dans une sorte de génération originelle, une réponse d'amour est suscitée en nous. » Une réponse d'amour est suscitée en nous. Bien sûr que c'est notre liberté, mais c'est aussi l'œuvre de la grâce. Une réponse d'amour est suscitée en nous, demeurant en nous-mêmes balbutiante et à l'état naissant, elle acquiert par la médiation de l'amour du Christ, sa plénitude et sa vérité. Je pense que c'est tout le sens de la réponse de Pierre. Tu sais que je t'aime. Tu sais tout. Mais ce n'est pas une connaissance purement intellectuelle, bien sûr, c'est la connaissance du cœur de celui qui nous connaît mieux que nous connaissons, qui nous est plus intime à nous-mêmes que nous ne le sommes, nous connaissons tout cela. Et dont l'amour nous précède constamment et génère en nous, dès lors que nous nous y opposons pas, et génère en nous notre propre réponse d'amour. Voilà, j'avais noté, voilà ce qu'il nous faut sans cesse nous dire et nous redire. Ce n'est que par la médiation de l'amour parfait du Christ que nous pouvons répondre à son amour et à celui du Père. Donc toujours en lui laissant, bien sûr, la première place. Pendant le confinement, j'étais à Rome, comme vous savez, dans des conditions un petit peu compliquées. J'ai eu la grâce de pouvoir lire les œuvres de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et j'ai été très surpris, bien sûr, de découvrir que quelques semaines avant sa mort, elle évoque Pierre. Elle n'évoque pas ailleurs, on ne voit pas la figure de Pierre apparaître ailleurs. Et elle évoque vraiment quelques semaines, en fait c'est le 7 août 1897, et elle dit ceci, alors c'est à propos de la chute, même si moi, « Je comprends très bien que Saint-Pierre soit tombé. Ce pauvre Saint-Pierre, il s'appuyait sur lui-même au lieu de s'appuyer uniquement sur la force du bon Dieu. » Je suis bien sûr que si Saint-Pierre avait dit humblement à Jésus « Accordez-moi, je vous prie, la force de vous suivre jusqu'à la mort », il l'aurait eu aussitôt. Je suis certaine encore que notre Seigneur n'en disait pas davantage à ses apôtres par ses instructions et sa présence sensible qu'il ne nous dit à nous-mêmes par les bonnes inspirations de sa grâce. Il aurait bien pu dire à Saint-Pierre « Demande-moi la force d'accomplir ce que tu veux. » Mais non, parce qu'il voulait lui montrer sa faiblesse et que devant gouverner toute l'Église qui est remplie de pécheurs, il lui fallait expérimenter par lui-même ce que peut l'homme sans l'aide de Dieu. Il y a ce que peut l'homme sans l'aide de Dieu. Et il y a tout ce qu'il peut dès lors qu'il se laisse saisir par l'amour. Et dès lors que, d'une certaine manière, se dépossédant, c'est très difficile de se déposséder de ces boulets que nous traînons constamment. Nous traînons des boulets, voilà, peut-être pas vous, moi j'en ai quelques-uns, et nous les traînons. Et c'est difficile de se déposséder pour les remettre entre les mains du Seigneur. Et de croire parfois que nous sommes aimés avec. C'est Paul qui, je vais quand même évoquer Paul, qui dit justement, qui comprend, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand j'accepte de reconnaître, voilà, dans la foi, dans l'humilité, dans la vérité. Tout ce qui m'éloigne des autres, tout ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce qui m'éloigne de moi-même, parfois de ma vocation, de l'appel que j'ai reçu, et que j'accepte de m'en remettre totalement à l'amour du Seigneur. C'est à ce moment-là, évidemment, que je peux renaître, et que je peux renaître en ce que Dieu veut et peut faire de moi. Alors la suite, évidemment, c'est la manière dont Jésus va conduire Pierre vers la mission qui est la sienne. C'est ce « paie mes brebis » qui intervient trois fois. « Paie mes brebis ». Et ce n'est pas un hasard, on revient à la même chose, si vous avez « m'aimes-tu, crois-tu à mon amour ? Crois-tu suffisamment à mon amour qui est un amour sauveur ? C'est à cette condition que tu pourras paître mes brebis. Non pas en vertu de tes qualités, non pas en vertu de tes mérites, non pas en vertu de tes connaissances, mais précisément, parce que tu, dans cette œuvre de vérité à laquelle je t'appelle, tu n'as pas douté de mon amour. Tu n'as pas douté de mon amour. Il y a une scène très étonnante, ça c'est Luc, vous connaissez cela. C'est la prière de Jésus pour Pierre. Après l'institution de l'Eucharistie, c'est dans l'évangile de Luc. Jésus prie pour Pierre. Simon, vous connaissez ce passage-là, Simon, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est la prière de Jésus. pour évoquer après la prière sacerdotale dans l'évangile de Jean, la prière de Jésus pour ses disciples. Vous noterez que Jésus, dans cette prière, ne prie pas pour que Pierre échappe à l'épreuve. Pierre vivra l'épreuve, comme nous la vivons, comme voilà. Pierre vivra l'épreuve. Il prie pour que sa foi ne défaille pas, pour qu'au cœur même de l'épreuve, il ne doute pas de l'amour de Jésus. C'est ça. J'ai prié pour toi, pour que ta foi. Et puis il ajoute, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Autrement dit, quand tu auras fait cette expérience-là, alors tu pourras affermir tes frères. Tu ne les affermiras pas par rapport à ta propre force, par rapport à ce que tu es, par rapport... Non, tu pourras les affermir parce que tu as fait cette expérience de ma force à moi, qui est la force de mon amour. Il me semble que il y a là quelque chose pour nous d'essentiel. Comme Pierre, grâce à l'intercession de Jésus, nous sommes constamment relevés. Comme Pierre, grâce à cette force renouvelée, indissociable de l'expérience de notre faiblesse, mais de notre faiblesse transfigurée par l'expérience de l'amour indéfectible de Jésus, nous pouvons accomplir le mandat qui nous a été confié. Nous pouvons répondre à l'appel. Non pas, je le disais il y a un instant, non pas en vertu de notre force, de nos seules qualités, mais grâce à la prière de Jésus. Savons-nous que Jésus prie pour nous ? C'est une question. Voilà. Et on le voit dans l'évangile de Jean. Jésus prie pour ses disciples. Comment n'intercéderait-il pas auprès de son Père, aujourd'hui encore, pour ceux qu'il a appelés ? Pour que nous vivions pleinement la mission qui est la nôtre, avec ce que nous sommes, nos qualités bien sûr, mais aussi nos faiblesses, nos fragilités. Je reprends sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toujours dans le petit passage du 7 août 1897, commenté. Quand tu seras revenu, confirme tes frères, affermis tes frères. Vous savez, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et elle commente, quand tu seras revenu, elle dit, cela voulait dire, persuade-les par ta propre expérience de la faiblesse des forces humaines. De la faiblesse des forces humaines. Et je pourrais ajouter, et en contrepartie, de la force de celui qui peut tout au cœur même de nos faiblesses. Alors, peut-être un autre passage de von Balthasar, toujours dans ce petit livre, il dit ceci, « Si l'homme possède l'amour, ce n'est que parce que l'amour le possède. C'est-à-dire qu'il ne possède jamais de telle sorte qu'il pourrait le considérer comme ce dont il peut disposer en toute propriété. Sans doute il ne le possède pas extérieurement, mais c'est seulement parce que l'amour le possède au plus intime. Interius intimum meo. Voilà pourquoi le ressuscité peut dire à Pierre, paie mes brebis. Il peut lui dire, paie mes brebis. Parce que Pierre, dans sa réponse, tu sais bien que je t'aime. Tu sais tout. Pierre a fait au plus profond de lui-même cette expérience salvifique de l'amour qui le possède et qui lui permet d'aller de l'avant. À lui qui vient de confesser son amour pour Jésus, avec ce qu'une telle confession de foi exige d'attachement, de fidélité, de don de soi à Dieu et aux autres. À lui qui a fait l'expérience de sa faiblesse et qui sait désormais ne pouvoir compter que sur l'amour de Dieu, pleinement révélé en Jésus. Jésus peut lui demander d'être le berger de ses brebis, donc d'exercer une autorité pastorale, mais une autorité pastorale fondée dans l'accueil de l'amour premier de Jésus et nourrie par cet amour. L'amour de Jésus n'étant pas seulement le modèle, mais celui qui rend possible le service pastoral et qui le rend possible dès lors que nous le vivons dans l'amour de Jésus. Il y a dans la lettre de Paul aux Philippiens, il y a une expression de Paul que je trouve magnifique et qui nous dit, voilà, comme pasteur, quel que soit nous, voilà, comme consacré, comme prêtre, comme diacre, voilà, qui nous dit la nature de l'attachement qui est le nôtre au Christ, mais qui doit être aussi le nôtre à ceux qui nous sont confiés. Voilà. Dieu m'est témoin que je vous chéris dans la tendresse du Christ Jésus. Dans la tendresse du Christ Jésus, c'est au chapitre 1, verset 8 de la lettre aux Philippiens. Le texte dit même « dans les entrailles du Christ Jésus ». Je vous chéris dans les entrailles du Christ Jésus. Ça veut dire que c'est du cœur même de l'amour de Jésus, de l'amour que nous recevons de lui et que nous éprouvons pour lui, que nous allons aimer ceux qui nous sont confiés. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse. Et l'on voit bien par le fait même que la relation qui va nous unir, qui va nous relier aux autres, voilà, va être purifiée, sera par le fait même purifiée de tout danger, un peu d'annexion ou autre, puisque c'est dans l'amour de Jésus, c'est dans les entrailles de Jésus que j'apprends à aimer, à chérir ceux avec qui je vis, c'est pas toujours facile, mais ceux aussi qui me sont confiés. Évidemment, cela paraît évident lorsque Jésus dit à Pierre « Paix mes brebis, paix mes brebis ». Et qu'il lui dit trois fois, après lui avoir dit « M'aimes-tu ?» Et que Jésus et que Pierre aient répondu « Tu sais bien que je t'aime. » Évidemment, on retrouve là l'image du pasteur. L'image du pasteur qui, dans l'évangile de Jean, a une importance particulière. Et là, on retrouve toutes les dimensions, voilà, de ce... cette tâche du pasteur, le bon berger qui connaît ses brebis, chapitre 10 de l'évangile de Jean, qui les fait sortir pour les conduire au pâturage, qui, à la différence des mercenaires, les protège contre le loup et va jusqu'à donner sa vie pour elles. En même temps, vous aurez noté que Jésus, le ressuscité, demande à Pierre d'être le berger de ses brebis. Pas les bergers, pas les brebis de Pierre, mais les brebis du ressuscité. C'est-à-dire qu'il lui demande, c'est notre mission de poursuivre son œuvre, de poursuivre son œuvre, avec une responsabilité, bien sûr, de conduite, d'attention aux besoins vitaux du troupeau, d'amour, de sollicitude, de protection. Alors ce n'est pas dans l'évangile de Jean, mais dans l'évangile de Luc et de Matthieu, bien sûr, on pense aussi aux brebis perdues, aux brebis égarées qu'il faut aller chercher. On pense aussi à la nécessité de veiller à l'unité du troupeau, à l'unité du troupeau. Je pense que ce sont des dimensions que nombre d'entre vous connaissent bien. À cela, le ressuscité, après la troisième invitation à paître le troupeau, eh bien le ressuscité ajoute un élément. C'est la prédiction concernant la mort que Pierre subira et par laquelle il donnera sa vie pour ses brebis. Amen. Amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu auras vieilli, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera là où tu ne voudrais pas aller. Et l'évangéliste Jean ajoute, il dit pour cela, pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Avec ce lien que l'on peut faire entre Pierre, qui glorifie Dieu, qui glorifiera Dieu par sa mort, voilà, et Jésus, qui à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean souligne aussi que par sa mort, il glorifiera Dieu. On peut penser ici que dans la mesure où, en donnant sa vie pour le Seigneur et pour le troupeau qui lui a demandé de paître, qui est le sien, on peut penser que Pierre, précisément, ce faisant, accomplira la mission qui lui a été confiée. Et il portera à son achèvement son être même de disciple. Il glorifiera Dieu dans la mesure où, comme le Christ l'a fait, en tant que fils, il portera à son achèvement son être de disciple qui donne sa vie à la suite du berger. Ainsi s'explique que le ressuscité, vous avez noté, accompagne cette annonce du martyr d'un appel à le suivre. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». C'est très étrange. C'est la première fois dans l'évangile de Jean, il faut arriver à la fin, que Jésus demande à Pierre de le suivre. Il y avait bien eu au tout début, voilà, je l'ai évoqué rapidement, il y avait bien eu « Tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Céphas ». C'était au tout début, au chapitre 1. Et voilà qu'au chapitre 21, voilà, après ce « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci voilà. ?»« Tu sais bien que je t'aime, paie mes brebis. » Et bien c'est à ce moment-là, pour la première fois dans l'évangile de Jean, que Jésus demande à Pierre de le suivre. À la fin de cet itinéraire, où il a fallu que, accueillant l'amour premier de Jésus, dans la reconnaissance de ses fragilités, de ses faiblesses, Pierre accueille la mission qui est la sienne. Une mission dont il sait désormais qu'elle le conduira à donner sa vie pour les brebis, comme Jésus l'a fait. À l'aube de la Passion, toujours dans l'évangile de Jean, vous connaissez cet épisode, c'est au chapitre 13. Pierre, toujours pareil, dans son, avec son côté très un peu fougueux, avait dit à Jésus, « Mais je te suivrai. Voilà, je te suivrai partout où tu iras. Voilà. » Et Jésus lui avait dit, « Oui, où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Mais tu me suivras plus tard. » Chapitre 13, verset 36. Voilà. « Oui, tu me suivras, mais pas maintenant. » Plus tard. Et on peut dire qu'ici, ce plus tard est arrivé. C'est maintenant qu'il le suivra. Mais comme nous l'avons vu ensemble, il a fallu qu'entre-temps, Pierre fasse à la foi de manière indissociable l'expérience de sa fragilité et celle de la fidélité du Christ Sauveur. Il a fallu sans doute aussi qu'il meure à une certaine idée qu'il se faisait du Messie. Alors ça paraît clairement au moment du lavement des pieds, parce que Jésus veut laver les pieds de Pierre, et que Pierre lui dit « Non, attends, pas toi, ben non, tu ne vas pas faire ça quand même. » Vous savez que c'est quand même un geste. Hein. Dans le judaïsme, il semble que un maître juif ne pouvait pas demander à son esclave juif de lui laver les pieds. C'est pour ça que quand Jésus lave les pieds, il se met à un rang inférieur à celui de l'esclave. Et pour Pierre, c'est insupportable. Il a fallu qu'il passe par ses conversions successives jusqu'à faire l'expérience, voilà, de ce surniment, pour qu'il puisse suivre Jésus. Celui qui avait répondu à Jésus au chapitre 6 de l'évangile de Jean, vous savez, c'est après le discours sur le pain de vie, lorsque Jésus évoque le fait que celui qui mangera sa chair vivra pour toujours et que tout le monde s'en va, parce que bon, les gens sont venus parce qu'il a multiplié les pains. Mais quand elle a entendu dire que celui qui mangera son corps vivra, tous s'en vont. Et puis Jésus se tourne vers les disciples et leur dit, mais vous aussi, et c'est Pierre dans l'évangile de Jean, qui répond, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais on peut dire que maintenant, il pourra suivre Jésus. Il pourra le suivre dans le chemin de service qui est le sien. Il pourra affermir ses frères parce qu'il a fait l'expérience de l'amour. Je voudrais terminer juste sur un passage de l'évangile, de la première lettre de Pierre. Alors, est-elle de Pierre? N'est-elle pas de Pierre? En tous les cas, on voit bien comment, pour nous qui exerçons un ministère, diacre, prêtre, mais aussi pour nous tous consacrés, qui d'une certaine manière avons une mission à vivre comme réponse à l'amour premier de Jésus, il me semble que ces paroles peuvent être importantes. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai part à la gloire qui va être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont confiés, mais devenez les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le souverain berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. c'est Pierre qui parle ici, ou du moins qui est censé parler. Lui qui dit avoir été témoin du souffrance du Christ, de sa passion, qui dit avoir part aussi à la gloire qu'il va être révélé. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Il insiste sur le fait que l'exercice de l'autorité, du pouvoir au sein des communautés chrétiennes, ne doit pas être vécu dans la domination, ni par recherche d'intérêt personnel, mais dans l'abaissement, le service, le désintéressement total. Désintéressement total, ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse, non. Vous avez compris, c'est le dépouillement, bien sûr. De sorte que tout pasteur devienne le modèle de la part du troupeau du Christ. Il y a un seul troupeau. Il n'y a pas des troupeaux, il y en a un seul. Voilà. Mais que tout pasteur devienne le modèle de la part du troupeau qui lui a été confié à l'exemple et à la suite de celui qu'il reconnaît comme étant le souverain berger. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Dans son exhortation apostolique sur la joie et l'allégresse, quand même, j'avais noté, permettez-moi quand même de reprendre, j'avais noté ceci, parce que bon, comment ne pas être saisi d'émerveillement ? Comment ne pas être saisi d'émerveillement ? Devant la confiance du Seigneur, devant son appel, devant son amour toujours offert, devant son invitation à paître son troupeau à lui. Comment ne pas être saisi d'émerveillement ? Alors on pourrait dire, en employant un mot biblique, de crainte, c'est pas la peur. C'est juste précisément quand on se laisse saisir et qu'on se dit « mais non, c'est trop, c'est trop ». Mais c'est précisément parce que c'est trop que ça ne peut être que par lui. Et c'est aussi ce qui peut éclairer à la fois nos réussites, nos échecs. Je suis toujours un peu embêté devant l'arbre qui porte du fruit parce que, je l'avais dit à Denise, parce qu'il y a des arbres, on a l'impression qu'ils ne portent pas de fruit. Mais ils ne portent pas du fruit selon nos critères à nous. Selon nos critères à nous. Tout apôtre, tout disciple, toute personne qui répond du mieux possible à cet amour premier de Dieu et qui ne cesse de s'en remettre à lui et qui apprend à évangéliser, à se laisser évangéliser, aussi bien dans ce qui pourrait être parfois des tentations d'orgueil, des tentations de réussite, ou à l'inverse, des sentiments d'échec, des sentiments... Toute personne qui portera du fruit, c'est pas à nous de dire où, c'est pas à nous de savoir quand, c'est pas à nous de dire comment. L'important, c'est de se laisser saisir. Vous connaissez cette phrase, cette réaction du pape François, dans la joie et l'allégresse, son exhortation, il dit ceci, il sait bien ce que Pierre a vécu, le dessein du Père, c'est le Christ. Et nous en lui, pas nécessairement lui en nous, bien sûr, mais nous en lui. Et il ajoute, en dernière analyse, c'est le Christ aimant en nous. Voilà l'expérience de Pierre. C'est le Christ aimant en nous. Le dessein du Père. Et il ajoute, mais là c'est une citation de Benoît, car la sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. C'est pourquoi la mesure de la sainteté est donné par la stature que le Christ atteint en nous. La mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous. Rien d'autre, mais tout ça. Par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, bien sûr, nous modelons notre vie sur la sienne. Le dessein du Père, c'est le Christ, et nous, en lui, en dernière analyse, c'est le Christ aimant en nous, et on pourrait ajouter par nous, à travers nous.
Merci Pierre, nous ne regrettons pas de t'avoir invité à nous parler de Pierre, de l'apôtre Pierre. Voilà un enseignement qui va nourrir maintenant notre temps de recueillement, de prière ou de réconciliation. On n'a pas pu vivre le lundi saint, il y a une belle tradition dans le diocèse, c'est qu'on sert entre nous le sacrement du pardon. Donc dans l'heure qui va suivre, chacun ira vivre le cœur à cœur avec le Seigneur. Le Saint-Sacrement sera exposé par le Père Thomas, ou le Père Marc plutôt, dans la basilique. Il fait beau, le parc est magnifique, la chapelle des miracles vous accueille, et puis si vous souhaitez entre nous vivre le rendez-vous de la miséricorde, nous ne nous priverons pas. Donc le rendez-vous, c'est 11h, ce sera midi, pour la bénédiction du Saint-Sacrement, l'Angélus, et puis quelques mots sur la lettre. Sur la démarche d'année de notre évêque.